Je suis de retour. Je m'entretiens maintenant avec un ancien directeur de la garde de Côtière, Pierre Boisvert, qui était là à l'époque où on a rapatrié le phare de Pointe-à-la-Renommée de Québec, donc à Pointe-à-la-Renommée. Bonjour, Monsieur Boisvert.
Oui, bonjour.
Avant de parler du rapatriement et tout, faut dire pourquoi ce phare-là, finalement, s'était retrouvé peut-être à Québec, parce que c'est là d'où vient après là, cette idée du comité de le ramener ici.
Bien, voyez-vous, dans les années 70, la garde côtière procédait à une restructuration de toutes les aides à la navigation. Et lorsqu'on automatisait les phares, c'est-à-dire qu'on mettait des sentinelles automatiques dans les phares et les gardiens, tranquillement, pas vite, se sont tous disparus. Et il y a aussi les aides à la navigation qui étaient rendues désuètes, c'est-à-dire qu'ils ne servaient plus à la navigation. On les a soit démolis, on les a transférés, on en a donné quelques-unes. En autre mot, on faisait un grand nettoyage dans toutes les aides à la navigation, et le phare de la Pointe à la Renommée était pour nous un phare quand même important, mais c'est un phare comme un autre. Et dans les années 75, le phare avait été abandonné depuis quelques années. Il n'y avait plus personne sur le site. Il y avait eu du vandalisme. Puis il y avait aussi une question de sécurité. On ne voulait pas que nos sites soient encombrés de choses qui auraient pu causer des risques à la santé, à la sécurité. Alors, le phare, le Pointe à la Renommée a été tout simplement démonté parce que c'est un fort qui pouvait être déconstruit. Et on a tout emballé ça et ramené ça à Québec. Et à ce moment-là, les gestionnaires en place avaient pensé de reconstruire le fort tout près de l'édifice administratif de la garde côtière dans le Vieux-Québec pour en faire un monument. Et puis, ce monument-là, en effet, avait été dédié à tous les gardiens de phare de la région des Laurentides. C'était une sorte de mémorial, si vous voulez. Alors, l'idée était excellente au départ. Les gens, la Pointe à la Renommée, les gens de la Gaspésie, le phare était parti. Pour plusieurs, ça faisait pas une grande différence. On le voyait même pas de la route. Par contre, il y avait des gens à Lens-Avallaux qui étaient aux aguets, et dont Mme Poirier, et puis ce comité local-là de développement tenait absolument à revoir le phare. Alors, c'était légitime de leur part, et je crois qu'ils ont reçu, après avoir fait des démarches, mon prédécesseur ou mes prédécesseurs ont cru bon de répondre à la négative, que c'était pas possible de ramener le phare. Et puis, vous pouvez vous imaginer aussi, le phare, il était beau, il était entouré de fleurs, il est tout près de l'édifice administratif, dans le Vieux-Québec, les touristes le voient, les touristes le photographient. C'était quasiment un acquis dans le bas de la ville. Excepté que, dans des termes vraiment maritimes, le phare n'était peut-être pas vraiment dans son milieu naturel.
Vous êtes arrivé en 1993 là, comme directeur de la garde côtière pour le Québec. Vous avez pris ce dossier-là en main.
En 1993, c'est ce que je suis arrivé. Ouais. Le phare était là, et puis on m'avait apporté à mon attention de certaines correspondances de Lens-Avallaux, de la Gaspésie, mettant un peu de pression pour repatrier le phare à son site d'origine, c'est-à-dire à la Pointe à la Renommée. Et en faisant une visite des installations au tout début lorsque j'ai assumé mes nouvelles fonctions, je suis allé à Rivière-Ornard pour rencontrer le personnel de la station radio. Et à ce moment-là, le responsable, M. Jean-Marc Poirier, qui a un lien de parenté d'ailleurs avec Mme
Blandine,
avec Mme Poirier, m'avait fait part du fait que les gens aimeraient bien avoir leur phare. Alors, j'ai dit oui, je suis au courant de la demande, là, mais j'ai dit pas plus que ça. Alors, il m'a invité d'aller visiter le site. Alors, on a sauté dans son camion et puis on est parti sur la route 132. Puis, c'était pas tellement loin de la station de mémoire, là. Mais je sais que lorsqu'on a quitté la route, on a fait un bon 4-5 000 dans les bois, c'est le cas de le dire, dans quasiment un sentier forestier, plein de trous. Et puis, on était dans le milieu de la forêt, des épinettes et tout ça. Et puis, tout à coup, On est arrivé sur le bord de la falaise, sur le bord de la mer. Ah, c'était à couper le souffle, c'était majestueux. Et puis, là, on s'est approché du site proprement dit. Et c'est là que j'ai vu l'ancienne base de béton circulaire qui avait accueilli la tour. Et le site était relativement propre. Tout avait été nettoyé et tout, mais c'est un site désert et puis il n'attendait que le phare. Alors,
c'est à ce moment-là que vous avez eu ce sentiment que le phare donc devait revenir à sa place?
Ben, disons que j'ai eu un déclic. Disons que je me suis dit, me semble que le phare sera beaucoup mieux dans son milieu naturel, à l'endroit où on l'avait érigé en 1907. Me semble que c'est là qu'il devrait être. Mais il fallait que je retourne à mon bureau, il fallait que j'étudie de nouveau la correspondance et que je consulte les gestionnaires sur place, à savoir en savoir un petit peu plus sur toute cette histoire-là. Et puis, après avoir examiné le dossier bien comme il faut, puis après avoir reçu d'autres correspondances, et puis soit de députés ou soit du comité local de Lens-Avallo, je me suis dit, bon, mais peut-être qu'on devrait faire ça. Et puis, je m'étais fait l'idée que oui, on était pour le transférer sur son site d'origine, mais j'avais deux, trois choses qu'il fallait régler avant de m'engager fermement, c'est-à-dire que on était à ce moment-là dans une période de décroissance à la garde côtière. On réduisait nos effectifs, on réduisait nos aides à navigation, on mettait des gens, pas à la porte, là, mais presque, là, c'est-à-dire qu'on incitait les gens à partir à la retraite. Et je me voyais mal dépenser de l'argent pour déconstruire le phare à Québec et le remettre et le retransporter à la pointe à la renommée et le reconstruire. On n'avait pas beaucoup d'argent pour ce genre de choses-là. Deuxièmement, c'est une chose à connotation touristique. Et nous, la garde côtière, on n'est pas dans le touristique. On était là pour la sécurité de la navigation. Puis, troisièmement, il y avait aussi la pression des usagers, c'est-à-dire ceux qui utilisent les services de la garde côtière sur le fleuve, qui, eux, mettaient de la pression pour qu'on réduise nos infrastructures qui étaient non essentielles. On était rendu maintenant à l'ère de la navigation par satellite, c'est-à-dire par GPS. Les phares, plusieurs de nos feux côtiers n'étaient plus vraiment utiles, n'étaient pas nécessaires. Et les usagers ne voulaient pas qu'on s'engage dans des dépenses inutiles.
Donc, c'était alors, assez complexe, donc, là, ouais.
Oui, c'est complexe dans ce sens-là.
Au niveau financier.
Un problème a toujours une solution, mais c'est que ça prend du temps. Et il faut trouver les bonnes solutions acceptables, plus ou moins pour tout le monde. Et puis, ça prend du temps. Et on a pris le temps. Et puis, en 1994, je suis retourné à Rivière-au-Nord, à la station radio-côtière, pour célébrer le 90e anniversaire. Pour moi, c'est important parce que le 90e anniversaire, pas merveilleux de la station radio-côtière, mais qui était au début adjacente au phare de la Pointe à la Renommée avec Marconi et compagnie. Alors, ça avait une signification assez particulière et j'ai choisi ce moment-là pour annoncer que le phare retournerait à la Pointe à la Renommée, ce qui était au grand plaisir des gens de la place.
Donc, oui,
exactement. Puis je peux vous dire, moi, je m'en souviens très bien de cette journée. Une belle journée ensoleillée, d'ailleurs. C'était fantastique. Après la petite cérémonie à la station radio-côtière, on est allés tous en groupe. Je me demande même si il n'y avait pas de Nolisé, un petit autobus pour une sorte de navette, si vous voulez, pour l'occasion. Et on avait été sur le site et on avait fait l'annonce. À ce moment-là, il y avait un panneau. Je me souviens, il y avait un panneau, une sorte de dessin qui montrait le futur emplacement du phare et tout ça. C'était une belle petite cérémonie. C'était une belle journée. Puis c'était surtout une belle journée pour faire une belle annonce comme ça, comme quoi que le phare retournerait à la Pointe à la Renommée. Et de retour à Québec, là, on a mis les choses en branle pour le déménager. Et puis, ça a pris naturellement un peu de temps parce que il fallait tout démolir ce qu'il y avait autour du phare dans le Vieux-Québec. Et puis après ça, démolir, enfin, déconstruire le phare morceau par morceau, faire attention pour ne pas rien briser, répertorier toutes les pièces, enlever la lanterne, puis après ça, entreposer ça, se préparer pour le transport, renvoyer ça là-bas jusqu'à la pointe à la renommée, remettre ça sur le site, ça a pris des grues, remettre tout ça, ça a pris des ouvriers spécialisés, des échafaudages, remettre la lanterne, enfin, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis avec la météo, on peut pas tout faire dans la même journée, il faut attendre. Alors, il y a eu l'hiver, mais finalement, en 97, je crois, tout était en place, la tour était en place avec sa lanterne, il n'y avait pas d'autres bâtiments, mais le principal était déjà sur place. C'était magnifique à voir, je vous dis. Moi, j'ai quitté mes fonctions un an plus tard, j'ai pris ma retraite, et puis j'étais content de savoir que le phare était dans son lieu d'origine, que les gens étaient contents, et puis je suis retourné quelques années par après, avec ma famille, et je me suis intégré à un groupe de touristes et qui faisait la visite du phare, justement. Et puis, je suis allé là incognito. Et puis, je me suis intégré au groupe et puis j'ai suivi la guide. C'était une demoiselle à l'époque qui faisait la visite. Elle était superbe. Elle était exact, les renseignements étaient bons, je l'écoutais attentivement. Elle a parlé de la bataille avec Québec et tout ça, mais j'ai pas relevé. Et puis, elle a bien fait son travail et c'est là que j'ai vu que le site était promis à quelque chose de beau. Et j'entends dire qu'aujourd'hui, le site a peut-être doublé en superficie, ils ont des beaux bâtiments et je me promets d'y aller d'ailleurs dans... Je ne peux pas dire dans les prochains jours, mais certainement au courant de cette année ou l'année prochaine, je vais certainement y retourner faire un tour pour voir comment le tout a évolué. Et je suis content d'avoir fait partie de la solution.
Intéressant. Et merci beaucoup pour ce témoignage, M. Pierre Boisvert. Il faut dire que vous aviez aussi une dame, Mme Poirier, là, qui n'a pas lâché prise.
Je me souviens de Mme Blandine. Mme Blandine était, elle était cordiale, elle était gentille, mais qu'elle était tenace. Et je la comprends, elle a peut-être livré beaucoup de batailles avant que j'arrive dans mes fonctions. Je connais pas ses rapports avec l'administration précédente de la garde côtière, mais pour elle, c'était vraiment une bataille parce que, vous savez, déménager une pièce comme le phare de la Pointe à la Renommée, le faire déménager, redéménager à la Pointe à la Renommée, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis moi, je lève mon chapeau parce que elle et son comité ont fait un excellent travail. Et puis, d'ailleurs, s'il n'y aura peut-être pas eu d'eux, une chose, c'est qu'on n'aura pas confié le phare à n'importe qui. Et deuxièmement, s'il n'y aura pas eu d'eux, peut-être que les choses n'auraient jamais bougé. Le phare sera peut-être encore dans le Vieux-Québec. Je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'il est à la bonne place aujourd'hui.
Merci beaucoup encore, M. Pierre Boisvert, ancien directeur de la gare côtière. Et Mme Blandine Poirier vous salue aussi, en passant.
Ah, ben c'est bien gentil de sa part. Et si jamais que je suis de le retour bientôt, je vais m'arranger pour la trouver puis aller la saluer également.
Ça nous a fait plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup pour cet entretien.
D'accord. Au revoir et une bonne journée à vous.